السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا. Cette soirée لحظة إن شاء الله. En cette soirée du 23 Muharram 1434 de l'Hégire, correspondant au samedi 8 décembre 2012, Inch'Allah Ta'ala. Tayyip, toujours avec le hadith 60, cette fois avec le cours numéro 81, bi'idnillahi Ta'ala. Il ne reste que peut-être deux ou trois cours dans le hadith 60, Inch'Allah Ta'ala. Un mohim. On est donc toujours dans le chapitre la foi en le jour dernier. Le Cheikh Rahimahullah dit ici وَمِمَّا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ نَشْرُ الدَّوَوِينَ. Et des choses qu'il faut croire qui vont avoir lieu يوم القيامة. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et choses يعني, qu'on doit croire en elles. Parmi ces choses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a نَشْرُ الدَّوَوِينَ, la distribution des registres. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va distribuer aux êtres humains, il va leur distribuer leur registre. Il a dit, « Hey, sahaif al-a'mal allati kutibat 'ala al-mar'i fi hayatihi. » Il a dit, c'est-à-dire qu'il va leur distribuer tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit quant à la personne, tout ce qui a été écrit quant à la personne durant toute sa vie, durant toute sa vie. Puis, le mieux, Allah Ta'ala alam, serait de dire, à partir du moment où il est devenu pubère, à cause du hadith authentique, qui dit que la plume est levée, Rufi' al-Qalam an salat, de trois personnes. Entre autres, il a cité qui? Il a dit au sarir et le jeune jusqu'à ce que yeblor ou bien yahtalim, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Tant que le jeune n'est pas encore pubère, tout ce qu'il fait comme péché, ça ne compte pas contre lui. Et tout ce qu'il fait comme hasanat, il les aura bi'idnillahi ta'ala. Mais tout ce qu'il fait comme péché, ça ne compte pas contre lui. Et là, c'est une grande ni'ma, bi'idnillahi ta'ala. Tayyib. Il a dit, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَلَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ أَحَدُهُمَ عَنْ يَمِينٍ وَالثَّانِي عَنْ شِمَالٍ. Il a dit, car Allah subhanahu wa ta'ala a chargé pour toute personne deux anges. A chargé à toute personne, ou bien pour toute personne, il lui a chargé deux anges qui écrivent. Il a dit, le premier ange, il est à sa droite, et le deuxième, il est à sa gauche. Comme a dit Ta'ala, « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il a dit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, « إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. » C'est-à-dire, Et nous sommes plus près que sa veine jugulaire. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants, c'est-à-dire les anges, les deux recueillants, assis à sa droite et à sa gauche, recueillent, écrivent. La personne n'ose pas une parole. La personne, regardez ici, quand les savants ont dit, ici, nous, c'est les anges, c'est pas Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, en parlant de ces anges-là, il a dit, wa inna alaykum la hafidhin, wa inna alaykum la hafidhin, kiraman katibin, kiraman katibin. Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Le Cheikh Rahimallah dit, هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعل. أما ما يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه. فإنه لا يكتب عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال, إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. Écrive tout ce que fait la personne. Écrive tout ce que fait la personne. Que ça soit tout ce qu'ils disent, tout ce que dit la personne, ou que ça soit tout ce que fait la personne. Il a dit, compta ce que dit la personne entre elle et son cœur. Quand est-ce ce qu'elle se dit dans son cœur? Lorsqu'elle se dit entre elle et yani, sa tête à l'intérieur de son nefs, il a dit, quant à ça, ça ne s'écrit pas. Ça ne s'écrit pas. Tout ce qu'elle se dit dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'écrit pas contre toi. Mais il faut deux conditions. De ne pas yani, le dire ni le prononcer avec yani, la langue. Il faut que ça reste au niveau du cœur. Le shir dit, لَكِنَّ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ يُكْتَبُ عَلْ insan. Il a dit, quant à ce que tu dis, ou bien ce que tu fais, il a dit, ça s'écmine au Katibu Siyyat al-Shimal. Il a dit, l'ange qui écrit les hasanat, les récompenses, il est à droite, et l'ange qui écrit les mauvaises actions, se trouve à gauche. فَيَكْتُوبَنْ كُلَّمَا أُمِرَ بِكْتَبَتِهِ. Alors ils écrivent tout ce qui leur a été ordonné d'écrire. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُلْزِمَ كُلُّ إِنْسَانَ هَذَا الْكِتَابِ عُنُقِهِ. Et quand c'est maintenant le jour de la résurrection, chaque personne elle trouvera donc ce وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Et au cou de chaque homme et femme, bien sûr, homme et femme, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, c'est-à-dire un livre où c'est écrit tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il parlait. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit, un livret, qu'il trouvera déroulé devant lui. Naam. Donc, naam, de tout ce que vous faisiez, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, il y a la photocopie, si je puis dire, de cela, dans ce livret, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, وَيُخْرَجُ لَوَا الْكِتَابَ فَيُقَالَ. Et le jour de la résurrection, on va lui ouvrir ce livre et on va lui dire, اقرأ كتابك. On va lui dire, اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. On va lui dire, lis ton écrit. Lis ton écrit ou bien ton livret. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Yani, lis et dis-nous. Dis-nous, est-ce que tu as trouvé qu'il y a quelque chose, par exemple, que tu n'as pas fait et qui est dans le livre? Est-ce que quelqu'un a été injuste avec toi? Est-ce que quelqu'un a ajouté? Est-ce que quelqu'un a ceci, cela? Naam. Et même les bonnes actions. Lis et regarde, est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne action qui manque? Est-ce que un jour tu as donné une aumône ou là et n'a pas été inscrite? Est-ce qu'un jour tu as fait une salat et n'as pas été inscrite? Regarde. Non, dans ce livre, il ne manque rien. Il ne manque rien. طيب هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذ بيمينه ومن الناس من يأخذ بشماله. Le Cheikh رحمه الله dit, ce livret qu'on a autour du cou et que يوم القيامة الله تعالى va le dérouler et le montrer à chaque personne, il a dit, il y a des gens qui يوم القيامة vont le prendre de la main droite et il y a des gens يوم القيامة qui vont le prendre de la main gauche, de la main gauche. Ensuite, le shir dit, il a dit, quant à celui qui va le prendre avec la main droite. Ensuite, le shir dit, le shir dit, je demande à Allah Ta'ala qu'il fasse qu'on soit deux, c'est-à-dire de ceux qui prennent le livre de la main droite. Je dis, amin. Donc, cette personne qui va prendre le livre, ou le livret, de la main droite, qu'est-ce qu'elle va dire aux gens? Elle va dire, comme a dit Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Il va dire aux gens, tenez, lisez. Naam. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, qu'est-ce qu'il va dire? Tenez, lisez mon livre. Il va dire à qui? Tu veux le montrer à toute ta famille, à tous les gens qui sont devant toi. Regardez, regardez, yani, mon diplôme. Regardez, comme on dit, yani, avec quelle mention j'ai eu le diplôme. Mention très bien, mention très honorable, mention ceci. Tellement la personne est contente qu'elle veut montrer aux gens. La même chose. Il va dire aux gens, tenez, tenez, lisez mon livre. Masha'Allah, alhamdoulilah. Elle est très contente, la personne. Allah Ta'ala a dit que, pour cette personne qui a pris le livret avec la main droite, elle dira aussi, j'étais sûr d'y trouver mon compte. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Donc, ce livret, pour que tu le prennes de la main droite, il faut deux choses. Être sûr qu'il y a ce livret, il y a donc le jour de la résurrection. Donc les kofars, etc., qui ne croient pas en ça, ils vont le prendre de la main gauche. Ils vont le prendre de la main gauche. Et pour le prendre de la main droite aussi, il faudrait être, yani, parmi ceux qui étaient croyants et qui, yani, faisaient beaucoup d'efforts pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va dire, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Allah Ta'ala leur dira d'eux, de celui qui prendra le livre de la main droite, il jouira alors d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à la portée de la main. Allah Ta'ala va leur dire, ou bien les anges, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Donc cette personne qui a pris le livre de la main droite, puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de sorte qu'on prenne notre livre de la main droite. Allah Ta'ala dit, il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à la portée de la main. Les fruits dans le paradis, c'est pas la peine de grimper les arbres. Tu ne grimpes pas les arbres. D'ailleurs, les arbres, là, qui font peut-être 1 ou 2 kilomètres, yani, de hauteur. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa grande sagesse, a fait de sorte que les branches sont, yani, disons, tendues vers le bas. Les branches descendent jusqu'à, yani, la portée de la main, ou alors peut-être jusqu'à la portée de la bouche. Naam. C'est pour ça qu'il a dit ici, les fruits sont à la portée de la main. Mangez, buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mangez, buvez, profitez. Profitez maintenant. Pourquoi? Pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quels jours passés? Quand tu étais dans cette dunya, tu as avancé. Donc celui qui dans cette dunya n'a pas avancé, n'a pas préparé, n'am, il ne trouvera pas ce jour-là ses, yani, ses fruits et ce jardin au placé. Car il a dit, buvez et mangez agréablement, mangez, buvez, pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, pour le bien que vous faisiez, pour les prières que vous faisiez, pour, yani, l'aumône que vous donniez, pour la prière de la nuit que vous faisiez, pour les jeûnes. Pourquoi? Car la récompense, ça demande quoi? Ça demande des efforts, ça demande de faire des choses pour être gratifié ce jour-là. Pour celui qui va quoi? Il va prendre le livre de sa main gauche. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Quant à celui qui va prendre le livret de sa main gauche, qu'est-ce qu'il va dire? فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَهْ. Quant à celui à qui on va remettre le livre en sa main gauche, il va dire, malheur pour moi, malheur pour moi. Ensuite, il va dire, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Et j'aurais souhaité ne pas avoir connu mon compte. Non. Il souhaite quoi? Il souhaite qu'on ne lui remette pas son livre. Car ce livre, c'est quoi? C'est des preuves contre toi. Non. Celui auquel on remet le livre et de la main gauche, il est plein de preuves et de délits indubitables qu'on ne peut pas y en y réfuter contre la personne. C'est plein à l'intérieur de péchés. Tous les péchés qui ont été faits ont été inscrits, du plus petit au plus grand. Donc la personne souhaite, elle va dire, au moins si je n'avais pas ce livre-là, si on ne l'avait pas remis. Car la personne oublie les milliers et les millions de péchés qu'elle fait. Mais quand elle va lire le livre, elle va s'étonner, elle va dire, Subhanallah, il n'y a pas un péché qui a été omis, qui a été oublié. Comment ça se rappeler? Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il va dire, si au moins j'avais pas, yani, on m'avait pas remis mon livre. Et si au moins je n'avais pas connu mon compte, ce qu'il y a à l'intérieur. Il va dire aussi, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Hélas, malheur à moi. Comme j'aurais souhaité que, yani, je sois resté dans la tombe. Comme j'aurais souhaité que, yani, la première mort, quand je fus mort, qu'il n'y ait pas eu de résurrection. Que ça soit arrêté au niveau de la mort, maximum au niveau de la tombe. C'est pour ça que, dans le hadith authentique que vous connaissez, que le défunt, quand il sera dans la tombe, et que si c'est un croyant, après avoir bien répondu aux trois questions, qu'est-ce qu'il va dire aux quatre? On va lui ouvrir une porte vers l'enfer. Quand il va avoir peur, on va lui dire, n'aie pas peur. Voilà ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a sauvé. Et regarde, on va lui ouvrir une porte vers le paradis. Et on va tapisser sa tombe de tapis de paradis. Et on va l'élargir à peu près 35 mètres, à peu près. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Ya Rabbi Aqim Sa'a. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? De faire de sorte que la résurrection soit maintenant si c'est possible. Pourquoi? Car khlas, il a eu la certitude que, yani, il a gagné. Alhamdoulillah. On m'a annoncé toutes ces bonnes nouvelles. Donc, on m'a déjà montré ma place au paradis. Donc, témoin du cours. Quant au kafir, qu'est-ce qu'il va dire? Quand on va lui montrer, yani, tout ce qu'il attend, le feu, etc., il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas quoi? De ne pas faire venir le jour de la résurrection. Il va demander si c'est possible qu'il n'y ait pas de jour de résurrection. C'est pour ça qu'il a dit ici, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, comme j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas de résurrection. Non. Ensuite, il va dire ce que Allah Ta'ala a cité de lui, qu'il va dire, celui qui prend le livre et sa main, il va dire aussi, ma fortune ne m'a servi à rien. Ma fortune, mes biens, mes milliards, mes millions de dollars ne m'ont servi à rien. Ensuite, il va dire aussi, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Halaka anni sultania. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va dire que, bon, alors mettez-lui un carcan et yani, emmenez-le à la fournaise et yani, un châtiment douloureux, a'oudou billah. El-Muhim. El-Muhim. On va revenir au fait que, on a dit que, naam, avant d'oublier, quand il a dit ici que celui qui prend le livret de sa main gauche, il aura ce qu'on a cité maintenant, dans un autre verset, il est dit que, il prendra le livret de derrière son dos. Les savants ont dit il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. Car yom al-qiyama, il n'y a que deux sortes, comment prendre le livre. Ou bien on le prend de la main droite, c'est pour les croyants. Ou bien on le prend de la main gauche, de la main gauche et du dos pour les kofar. Comme on a la main gauche et du dos, on a dit que il met, yani de sa main gauche, il va rentrer sa main comme ça dans son ventre jusqu'à ce qu'elle sorte de son ventre, de son dos, pour qu'il prenne son livre. Comme ça, on dit les savants. Il n'y a pas de contradiction. Il prend sa main gauche, il la rentre dans son ventre, il la fait sortir de l'autre côté pour qu'il prenne le livre de sa main gauche et en même temps de derrière son ventre. Afoun, son dos. Pourquoi derrière son dos? Pourquoi derrière son dos? Pourquoi Allah Ta'ala veut lui donner son livre derrière son dos? Parce que ici, dans cette dunya, il a mis ce livre derrière son dos. Derrière dans cette vie. Dans ce bas monde. Est-ce qu'il appliquait ce qu'il y avait dans le Coran? Ça l'intéressait pas ce qu'il y avait dans le Coran. Donc, qu'est-ce qu'il avait du Coran? Il l'a jeté derrière son dos. Ça ne veut pas dire que je vais acheter un Coran et je vais le jeter derrière mon dos. Non. Mais toute personne qui n'applique pas le Coran, ça veut dire qu'elle l'a jeté derrière son dos. Donc, Allah Ta'ala va te dire, Yom al-Qiyamah, œil pour œil. Maintenant, tu vas prendre ton livre derrière ton dos, comme tu l'as jeté dans la vie, derrière le dos. Non. Donc, on va revenir maintenant. On va revenir à lorsqu'on parlait de Kitaba, parler de les anges qui écrivent bi'idhnillahi ta'ala. Le Cheikh rahimallah dit, sauf que cette fois, inshallah ta'ala, je suis en train de lire de l'Aqida al-Wasitiyya. L'Aqida al-Wasitiyya, page 506. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans l'Aqida al-Wasitiyya de ce qu'a dit Cheikh ibn Wathim rahimallah, c'est plus ample. C'est plus ample que ce qu'il a dit dans Riyad Salihin. C'est pour ça que je vais lire un peu de l'Aqida al-Wasitiyya. Il a dit: Wal-kitabatu fi sahaifi al-a'mal, imma lil-hasanati wa imma lis-sayyi'ati. Il a dit: ce qu'on écrit, ou bien ce qu'écrivent les anges, ce qu'écrivent les anges dans ce livret-là, qui sera attaché au cou, c'est ou bien les récompenses, ou bien yani, disons les péchés, non. Ou bien les bonnes œuvres, ou bien siyyi'at, ou bien yani, les péchés qu'on aura, les péchés qu'on aura. والذي يكتب من حسنات ما عمله الإنسان وما نوى مهما به. فهذه ثلاث أشياء. Et donc il faut bien suivre avec moi. Ce qu'on écrit sur ce livret, ou bien ce qu'on fait de bien, ou bien ce qu'on fait de mal. C'est clair, ça. Maintenant, ce qu'on fait de bien. Non. On va écrire, ou bien on va écrire ce que fait la personne, ce que fait la personne, wa et ce qui était au niveau de l'intention, et wa et ce qu'il y avait comme aspiration. Trois choses. Ça c'est pour les hasanat. Pour les anges qui écrivent les hasanat, ils écrivent ces trois choses: ce que tu fais et ce que tu as eu l'intention de faire, deux, et que tu n'as pas fait, et troisièmement, ce que les choses à laquelle tu as aspiré, c'est tout. Tu as aspiré, hein, comme ça tu t'es parlé dans ton cœur, c'est tout. Et quand je dis aspiration, ça veut dire moins que l'intention. L'intention, c'est tu as l'intention, tu dis demain. Je vais faire telle chose. Demain, je vais donner l'eau au monde. Demain, ça s'appelle intention. Mais aspiration, c'est seulement tu as parlé de choses comme ça et c'est resté yani, comme ça, yani, dans ton esprit. El Mouhem, ces trois choses, le Cheikh Rahimallah dit, va les écrire. Fa'amma ma amidahu, fa Quant à ce que la personne a fait, le Cheikh Rahimallah dit, c'est clair. C'est clair que ça va être écrit dans le livret. Ça, c'est clair. C'est pas la peine de parler beaucoup, c'est clair. Tout ce qu'on va faire, ça va être écrit sur le livret, hein, c'est clair. Quant à ce qu'il a eu dans l'intention de faire, nawa, il l'a eu dans l'intention de faire. Ça aussi, les anges vont l'écrire. Ça aussi, les anges vont l'écrire. Mais les anges vont lui écrire seulement la rétribution de l'intention, yani complète. Ils vont lui écrire quoi? La rétribution de l'intention. Mais ils vont pas lui écrire, yani la même rétribution, que la personne qui a fait la chose. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Quelqu'un a mis dans l'intention de construire une mosquée. Et une deuxième personne, disons Ali et Omar. Ali a mis dans l'intention de construire une mosquée et il a construit la mosquée. Et Omar a mis dans l'intention de construire une mosquée, mais il n'a pas construit. Il n'a pas eu le temps. Là, il est mort. Est-ce que les deux, ces deux-là, est-ce qu'ils vont avoir la même récompense? C'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un fasse et l'autre ne fasse pas et qu'ils aient la même récompense. C'est pas possible. Mais le premier, Ali, Allah Ta'ala va lui donner la récompense de la niyya plus la mosquée qu'il a construite. Alors que Omar, il va prendre seulement la récompense de la niyya. Parce qu'il n'a pas construit de mosquée. Il s'est désisté, ou là il a changé d'avis, ou là il est mort. Vous avez compris? Tayyib. La preuve, c'est un hadith connu, que Cheikh ici n'a pas cité. Cheikh ici n'a pas cité, mais il a été authentifié par Al-Albani. Il commence à peu près en ce sens. Innama ad-dunya li arba'ati nafar. Innama ad-dunya li arba'ati nafar. Quelque chose en ce sens. Et à l'intérieur de ce hadith, il dit que yani, une personne n'avait pas d'argent. Et qu'il y avait une autre personne qui avait beaucoup d'argent. Et qui, avec son argent, elle faisait beaucoup de bien. Alors celui qui n'avait pas d'argent a dit et a souhaité, il a dit, ah, si j'avais de l'argent comme X, qui en a beaucoup, j'aurais moi aussi fait du bien comme lui. J'aurais construit ceci, construit cela. Le hadith a dit, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُ مَسَوَى. Il a dit que, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ. Il a eu ça avec son intention. فَأَجْرُهُ مَسَوَى. Leurs récompenses sont quoi? Sont les mêmes, sont égales. Leurs récompenses sont égales. Naam. Tayyib. Ça, c'est pour la personne qui croit, pour la personne qui a une bonne intention et yani, souhaite seulement avec son intention de faire des choses, de bonnes choses et ne l'a pas fait. Elle aura, inshallah ta'ala, la récompense de la niyya. Reste maintenant, reste pour l'hem. L'hem, c'est yani, des choses, des aspirations ou bien des idées comme ça qui viennent dans la tête, qui viennent dans la tête, mais qu'on ne réalise pas. Il faudrait savoir que l'hem hada, ça se divise en deux. Ça se divise en deux. L'awwal, an yahimma bi shay wa yaf'ala ma yaqdiru alayhi minhu thumma yuhalu baynahu wa bayna ikmalihi fa hada yuktab lahu al-ajr kamilan liqoulihi ta'ala wa man yukhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Il a cité le verset où le cheikh rahimahullah a dit, non, il a dit que le hem hada se divise en deux. Ce qu'on a dans la tête comme aspiration, ça se divise en deux. Il a dit, le premier, c'est qu'il essaye. Il essaye de faire ce qu'il peut de la chose dont il a aspiré. Ensuite, il ne peut pas terminer. Il ne peut pas terminer. Il a dit, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui écrire quoi? Yani, l'ajr kamil, la récompense complète. Il a cité le verset. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et qu'il meurt, que la mort atteint, alors sa récompense incombe à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la récompense. Non. Le shir dit, وَهَذِي بُشْرَ لِي طَالَبَتِ الْعِلْمِ وَهَذِي بُشْرَ لِي طَالَبَتِ الْعِلْمِ. Il a dit, c'est vraiment une bonne nouvelle. Shir dit, c'est vraiment une bonne nouvelle, une grande nouvelle pour les étudiants en sciences religieuses. Pour les étudiants en sciences religieuses. Pourquoi? Il a dit, par exemple, quelqu'un qui a dans l'intention de faire demander la quête de la science, il a dit, avec l'intention que c'est pour propager cette science, mashallah, et pour que, yani pour être utile aux gens, et pour yani, il a dit pour, il a dit quoi aussi, et pour yani préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre يعني tout ce qu'on dit de faux d'elle et de bid'a, etc. Il a dit ensuite, par exemple, la personne meurt. Meurt en cours, yani, de son chemin. Elle est juste au début, par exemple, de Talibul-'Ilm. Ou bien elle vient juste de voyager pour commencer Talibul-'Ilm. Et elle est morte. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la niyya. Il va lui donner la récompense d'après, yani, la niyya, de cette bonne niyya. Bel insan. إذا كان من عادته العمل وحيل بينه وبينه لسبب فإنه يكتب له أجره. Il a dit même en islam, même si la personne avait dans ses habitudes qu'elle faisait quelques bonnes œuvres. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu un empêchement. Il a dit même dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit comme s'il avait fait cette bonne œuvre. D'après le hadith authentique rapporté dans le Bukhari. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ida marida al-abdu aw safar. Il a dit, si jamais la personne tombe malade, ou bien voyage, kutiba lahu mitma kana ya'malu muqiman sahihan. On va lui écrire comme s'il était quoi? Mitma kana ya'mal, comme ce qu'il œuvrait quand il était dans son pays avant de voyager. Et quand il était en bonne santé. Non, il a dit. C'est pour cela que, alhamdoulillah, regardez la différence entre la personne qui quoi? La personne qui, par exemple, lorsqu'elle est en bonne santé, elle fait de bonnes œuvres. Non. Celle-là, si jamais elle tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire quoi? Va lui écrire les choses qu'elle ne peut plus faire. Par exemple, elle avait l'habitude de jeûner chaque lundi et jeudi. Ensuite, elle est tombée malade. Elle n'a pas jeûné le lundi et le jeudi. Allah Ta'ala va lui écrire que si, c'est comme si elle avait jeûné lundi et jeudi. Pourquoi? Car elle avait dans ses habitudes de faire cela. Ensuite, il y a eu un empêchement. Celui, par exemple, qui a l'habitude de faire les rawatib, les 12 rak'at. Ensuite, par exemple, il va en voyage. Vous savez qu'en voyage, on ne fait pas les rawatib. On fait seulement salat al-fajr et l'huître. Et si on veut, qiyam al-layl, si on veut d'autres nafilas, pas les rawatib. La Doha. Il a dit, si jamais maintenant quelqu'un voyage, il laisse les rawatib. Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire la niyya. Pourquoi? Parce que quand il était ici, naam, il faisait tout ce qu'il faisait, Allah ta'ala va le lui écrire quand il sera en voyage. Il a dit ça, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, et la troisième, le qism thani, wa la yif'aluhu ma'al qudra alayh. Maintenant, la personne, par exemple, elle a parlé dans sa tête. Elle a parlé dans sa tête ou bien entre elle-même et son âme. Elle a dit, par exemple, je voudrais, par exemple, donner demain, par exemple, 10 euros à quelqu'un ou bien aider quelqu'un. Ensuite, il ne va pas le faire. Ensuite, il ne va pas le faire. Le cheikh rahimahullah dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire une hasana pour cette niya. Même si quoi? Même si c'est lui qui s'est désisté. S'est désisté, c'est-à-dire, a dit, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Regardez, par exemple, des fois, la personne dit, je veux aider, par exemple, mon voisin. Comme ça, il dit dans sa tête, il dit, je veux aider mon voisin, bidna ta'ala, il est pauvre, etc. Je vais lui donner, par exemple, je vais lui donner, par exemple, 1000 dinars. Ensuite, le lendemain, quand il se réveille, il change d'avis. Il dit, je préfère acheter yani, des souliers. Ou bien je préfère yani, faire autre chose avec cet argent. Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire quoi? Va lui écrire au moins la hasana de la niyya. Et la hasana, vous savez que ça se multiplie par 10. Déjà le fait, pourquoi? Pourquoi il t'a écrit, tu n'as rien fait? Si tu as fait quelque chose, tu as fait avec ton cœur. Non, il y a en islam, il y a a'mal qulub. Naam. Tu as fait avec ton cœur. Il y a aqwal qulub et a'mal qulub. Avec ton cœur, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, je voudrais aider mon voisin. Déjà, cela, ça te donne, bi'idhnillahi ta'ala, au moins, il y a une hasana qui va être multipliée par 10. Qu'en est-il maintenant si vraiment. Si vraiment demain en se levant, tu vas lui donner la chose dont yani, tu avais décidé de donner. Amasiyat, tout ça c'était pour le hasanat, c'était pour les bonnes œuvres. Là, maintenant voyons pour les mauvaises œuvres, siyat. Il a dit فإنه يكتب على الإنسان ما عمله. D'abord, premièrement, tout ce que fait la personne comme mauvaise chose, ça va être écrit comme lui. L'ange du côté gauche est dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Raqibun atid, ce ne sont pas deux noms. Il y a des gens qui croient qu'il y a deux anges, quelqu'un qui s'appelle Raqib et quelqu'un qui s'appelle Atid. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des anges, ce sont pas des noms, mais ce sont des attributs. L'un est Raqib, comment qu'il est, et l'autre est Atid. Mais ce ne sont pas des noms, ils ne s'appellent pas comme ça. Taïeb, je disais, chaque mauvaise chose que l'on fait, chaque mauvaise chose que l'on fait, l'ange de la gauche écrit la mauvaise chose. Ça, c'est pour ce qu'on fait. Taïeb. Al-awwal wadih. Al-thani. Maintenant, si la personne décide dans sa tête, disons dans son esprit, de faire une mauvaise chose, ensuite, elle ne la fait pas. La pire chose dans son cœur, elle se dit par exemple, demain je vais voler. Je vais voler la banque. Ou bien demain, Oudoubillah, je vais faire zina ou bien boire de l'alcool. Ensuite, yani, il ne va pas le faire. On va voir. On va voir. Car ça a besoin de détails. Si la personne a délaissé cette mauvaise action et ne l'a pas faite, hein, à cause que elle n'a pas pu la faire. Elle a voulu la faire et elle n'a pas pu. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire, oulayadu billah, comme s'il avait fait la chose. Pourquoi? Parce qu'il a souhaité de faire la chose et il a fait des efforts. Il a fait des efforts pour la faire, mais il n'est pas arrivé. Exemple, il a dit demain je vais boire l'alcool. Et il s'est levé, il est allé pour aller au bar. Quand il est arrivé au bar, il a trouvé le bar quoi? Fermé. Il est revenu à la maison, il n'a pas bu d'alcool. Il n'a pas bu d'alcool, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, il a bu. Pourquoi? Parce que il a eu l'intention et il a fait des efforts. Il est allé acheter, il a trouvé le bar fermé. La même chose, il a dit demain je vais faire zina. Fornication, a'oudou billah, avec une femme. Il lui a donné rendez-vous, il est allé au rendez-vous, il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé la femme. Il est revenu. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il avait fait zina. Pourquoi? Il y avait deux choses. Il y avait l'intention et les efforts. Les causes, l'asbab. Il a fait l'asbab. Il a fait l'asbab pour faire. Il n'est pas arrivé. Quel est le dalil? Le dalil très connu, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, très connu. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Si jamais les musulmans se rencontrent dans un combat avec leurs épées, celui qui tue et celui qui est tué seront en enfer. Celui qui tue et celui qui est tué. قالوا يا رسول الله هذا القاتل. On a dit يا رسول الله. Celui qui tue, c'est clair. On sait pourquoi il va aller en enfer parce qu'il a tué. Mais le problème, celui qui a été tué, ya Rasulallah, comment il a été tué, miskina, il n'a rien fait. Comment il va en enfer? Qala Ali sallam, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Il a dit Ali sallam, il sera en enfer car il était soucieux, haris, il était soucieux de tuer son adversaire. Ça veut dire que s'il n'a pas été tué, il aurait tué. Ça veut dire que ce qui l'a empêché de tuer, c'est d'avoir été tué. C'est tout. S'il n'a pas été tué, c'est lui qui aurait tué. Mais comme il a été tué, donc il n'a pas pu. Et, yani, il n'a pas tué. Sinon, il allait tuer. Donc, yani, il y a deux choses. Il y a l'intention. Il avait l'intention de tuer. Et il a fait les causes. C'est quoi les causes? Il a pris quoi? Il a pris l'épée. Il a l'épée dans sa main. Et il est sorti dans la rue pour combattre. Le cheikh dit, ومثله عفوا من هم ان يشرب الخمر. Il a dit, et dans la, dans, ça rentre dans la même, dans la même chose, il a dit celui qui a eu dans les souhaits de boire de l'alcool. ولكن حصل له مانع. Mais il y a eu un empêchement. فهذا يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه. Il a dit celui d'Allah Ta'ala va lui écrire le péché, يعني en complet. نعم. Le péché, il va lui écrire complet. C'est comme s'il l'avait fait. Pourquoi? Parce que il a fait des efforts. Il est sorti pour aller acheter. Il est sorti vers le bar. Il a bougé. Ça n'est pas resté au niveau de l'intention, c'est au niveau du cœur. Mais ça s'est transformé et c'est devenu yani, au niveau des jawarih, au niveau des actes. Non. Donc ça, je répète, ça c'est pour celui qui a souhaité une mauvaise action et ne l'a pas faite par empêchement. Ne l'a pas faite par empêchement. Mais si maintenant une personne a souhaité de faire une mauvaise action, ensuite ne l'a pas faite, l'a délaissée pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, au contraire, elle aura quoi? Elle aura la hasana. La hasana. Pourquoi? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, tarakaha, yani siyya, tarakaha min jarrai, wa fi riwayah min jarrai, à cause de moi. Non. Pourquoi donc il a voulu faire quelque chose de mal, ensuite il l'a délaissé. Il l'a délaissé pourquoi? Pour Allah. Le fait de délaisser une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est une obéissance donc. Donc ça s'inscrit chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'inscrit chez Allah subhanahu wa ta'ala comme hasanat. C'est une personne qui a un rendez-vous avec une femme pour aller faire zina, a'oudou billah. Ensuite, après avoir pris le rendez-vous, etc., qu'est-ce qu'il fait? En cours de chemin, par exemple, il commence à dire, moi, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Je vais faire zina, a'oudou billah. Moi qui prie, moi ceci, moi cela. Et demain, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Ensuite, la zina, c'est seulement 5 ou 10 minutes. Ensuite, les grands regrets, les remords, et ceci, a'oudou billah, zina c'est haram, je fais pas, a'oudou billah, je t'en ai dit, mais il revient à la maison. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui écrire hasana, au moins une hasana, au moins, sinon 10. Souvenez-vous le hadith des 3 personnes qui sont rentrées dans la grotte, et dans le rocher, est venu leur boucher la sortie de la grotte. L'un des 3, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma innaka ta'lam annahu kanat li ibnata 'am. Ya Allah, vous saviez que j'avais quoi? J'avais une cousine. Et que cette cousine, je l'ai vraiment aimée, etc. Et que elle me demandait de l'argent, j'ai pas voulu lui donner. Et qu'un jour, elle était vraiment dans les problèmes et dans le besoin. Alors j'ai profité de l'occasion pour lui dire quoi? Quand elle me demandait de l'argent, je lui ai demandé qu'elle me laisse faire le haram. Et il a dit que... Et à la dernière minute, qu'est-ce qu'elle lui a dit la femme? Elle lui a dit, taqillah. Et taqillah. Ne fais cette chose que dans le halal. Que dans le mariage. Il a dit, il s'est levé et il lui a laissé 1000 dinars. 1000 dinars en or. Celui-là. Ensuite, il a fait des doigts. Il a dit, Allah, si j'ai fait ça, c'est billah, fais-moi une solution à mon problème. Le mohim. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre dans notre cas. Il a mis dans l'intention de faire zina avec elle. Il a fait des efforts. Il est parti vers elle. Il a même enlevé ses habits, etc. Et à la dernière minute, il s'est désisté. Pourquoi? Elle ne lui plaisait pas. Il était fou d'elle. Sa cousine, il la connaît très bien. Mais il a eu peur d'Allah. À la dernière minute, quand elle lui a dit « Taqillah », ça lui a fait un déclic dans son cœur. Et il a eu peur. Et il a dit « Je laisse cette chose, cette mauvaise action, je vais la laisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il a laissé la femme comme ça. Et yani, il est parti chez lui. Donc, celui-là, vraiment, Allah Ta'ala, yani, était ravi de lui. La preuve, même cette personne sait. Elle sait que ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de vraiment bien. Dalil, elle a fait des doigts avec. Elle a dit à Allah, si ce que j'ai fait avec ma cousine vous a ravi, alors faites-moi une solution. Et la personne ne fait pas des doigts avec des choses qui sont pas bien. Ne dis pas, ya Allah, si j'ai bu de l'alcool, alors faites-moi une solution. Si j'ai... Non, parce qu'il sait que c'est une bonne chose qu'il a fait quoi? Des doigts avec. Donc ça se voit que celui qui décide dans son cœur, qui souhaite de faire une mauvaise chose, ensuite la délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, que quoi? Qu'il aura des récompenses. Naam, alhamdoulillah. Donc je voudrais juste résumer. Et justement, je vais m'arrêter, inchallah ta'ala, parce que c'est l'heure. Je voudrais, inchallah ta'ala, résumer pour vous dire, en ce qui concerne celui qui délaisse, en ce qui concerne celui qui délaisse, yani, un péché, il ne le fait pas. Il faut apprendre la règle. Il faut apprendre la règle. Celui qui délaisse un péché et ne le fait pas, ça se divise en trois. Ça se divise en trois. Ou bien, qu'il délaisse le péché, hein, car il n'a pas pu le faire. Lui, dans son cœur. Dans son cœur, il veut le faire, mais il n'a pas pu le faire. Celui-là, c'est comme s'il l'a fait. C'est comme s'il l'a fait. Surtout, 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 c'est quoi? S'il a fait des efforts. Maintenant, si c'est seulement au niveau du cœur, le souhait du péché est au niveau du cœur, mais il ne l'a pas fait. Là, celui-là, il aura la. De la niya, c'est tout. La mauvaise niya. La mauvaise niya. Naam, s'il a vraiment le souhait. Mais maintenant, s'il fait des efforts, il aura quoi? C'est comme s'il l'avait fait. Il aura, c'est comme s'il l'avait fait. Et ici, on peut dire, on peut dire que, même s'il a la niya dans le cœur, tant que il n'a pas parlé, naam, n'a pas parlé, ni l'a fait, que ça reste toujours au niveau du cœur. La niya est mauvaise, mais que Allah Ta'ala ne va rien lui inscrire. Mais si maintenant, il fait des efforts pour le faire, pour faire ce péché, et il peut pas arriver à son but, Allah Ta'ala va lui écrire comme s'il l'avait fait. C'est le premier. Deuxième cas, qu'il délaisse le péché pour le visage d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dans ce cas, il aura quoi? Il aura des récompenses. Troisième cas, qu'on délaisse un péché. Pourquoi? Sans qu'il nous passe dans l'esprit. Sans qu'il nous passe dans l'esprit. Ou bien, je vais donner un exemple de sans qu'il nous vienne dans l'esprit. Par exemple, maintenant, quelqu'un est assis chez lui, en train de boire un thé. Il n'a pas dans l'esprit que il voulait fumer de la drogue, par exemple. Il n'a pas dans l'esprit qu'il voulait voler. Il n'a pas dans l'esprit qu'il veut y faire l'usure. Il est en train de boire un thé, c'est tout, et il discute, ou là, il lit un livre, ou là. Celui-là, il n'aura pas quoi? Il n'aura pas ni de récompense, ni de péché, pour ces choses-là. Car ces choses ne lui sont pas venues du tout dans l'esprit. Le fait de voler ou de, ça m'est pas venu du tout à l'esprit. J'étais en train de lire un livre, c'est tout, ça m'est pas venu à l'esprit. Donc les choses, les péchés qui ne nous viennent pas à l'esprit, hein, on n'aura pour eux ni péché ni hasana. Mais maintenant, quand on a un péché dans la tête et qu'on le délaisse, on le délaisse, non pas pour Allah, car pour Allah on a des récompenses, et non pas parce qu'on n'a pas pu le faire, car si on n'a pas pu le faire, on aura quoi? On aura des péchés. Non. Mais on le délaisse parce que on n'en veut pas. On n'en veut pas. Non. Celui-là aussi, on n'a ni bonne récompense pour lui, ni péché. Non. Ni hasanat, ni sayyi'at. Quand une personne pense à une mauvaise chose, un vol, ou là, ensuite, yani, il se dit, laisse tomber ça. Et il oublie le sujet. Non, celui-là, il n'aura ni récompense, ni mauvaise action. Enfin, pour terminer, je veux dire que, je voulais dire, il y a un hadith ici, Hassan, Hassan. Cheikh Al-Albani l'a cité dans le numéro, attendez, 2097 dans Sahih Al-Jami'a. Je l'écris ici, 2097 dans Sahih Al-Jami'a. 2097. 2097. Non. Sahih al-Jami'a. Sahih al-Jami'a. Al-Jami'a. Donc, le cheikh l'Albani a cité un hadith dans Sahih al-Jami' sous le numéro 2097, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna sahib al-shimali, que l'ange de là, l'ange du côté gauche, l'ange qui se trouve dans le côté gauche, la yarfa al-qalam, il lève la plume 6 heures, 7 sa'at. Anil Abd Muslim, 6 heures du croyant, du musulman, le mortel, qui a fait la faute, fa inna dima ustaghfara Allah minha alqa. Il a dit: si maintenant, pendant ces 6 heures, il a regretté, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, ça va pas lui être. Donc, alhamdoulilah, ces 6 heures-là, c'est une ni'ma pour la personne qui s'est trompée et Yani qui a décidé de faire une mauvaise chose, etc. Ou là, qui a fait, c'est pas qui a décidé aussi, mais plutôt qui a fait. Qui a fait la faute, donc il a 6 heures devant lui pour revenir vite vers Allah subhanahu wa ta'ala avant que ça ne s'écrive. Avant que ça ne s'écrive. Subhanallah, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais une bonne action, tu fais une bonne action, à peine tu la termines, qu'elle est inscrite dans ton livret. Et quand tu fais une mauvaise action, on te donne 6 heures. 6 heures pour que tu réfléchisses, pour que tu reviennes vers Allah, pour que tu dises Astaghfirullah, pour que tu dises Aoudoublam, je me suis trompé, Ya Rabbi, smahli. Naam, tu as 6 heures. Et si pendant ces 6 heures tu regrettes, elle ne sera pas inscrite dans ton livret. C'est une ni'ma kbira. C'est une ni'ma, une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la hasana, la bonne chose, dès que tu l'as fait, dès que tu l'as dit, elle est inscrite dans ton livre, alhamdoulillah. Voilà pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. afouan pour le désagrément, Ada. car aujourd'hui, j'avais la grippe. J'allais pas faire cours. Non. Mais le soir, comme ça, je sens que c'est mieux que hier, etc. Donc, alhamdoulillah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha amin. Shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Donc, première question, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. À partir de combien de personnes sommes-nous concernés par la prière en groupe? Si la femme prie avec son mari, est-elle considérée en prière en groupe? Allah yashfikoum ya cher, et Allah vous accorde le Firdaous pour tout ce que vous nous apportez. Fadal cher.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Il y a certains savants qui ont dit que pour que ça soit la prière en groupe, il faudrait que ça soit trois, l'imam et deux personnes avec lui. Mais ce n'est pas l'avis fort. L'avis fort, c'est deux personnes, l'imam et une personne à sa droite. C'est ça la ville arjah, bi'idhnillahi ta'ala. Donc une femme quand elle est à la maison et qu'elle est derrière son mari, ils ont fait bi'idhnillahi ta'ala la prière en groupe. Ils ont fait bi'idhnillahi ta'ala la prière en groupe. Naam, tfadlal. Wallahu ta'ala alam, tfadlal.
Madame, chère, j'aimerais vous rappeler une chose. Comme vous avez pu le remarquer, je n'avais pas du tout de son pendant le cours. Il y a un problème, j'ai dû changer de pièce. Personne n'est présent ce soir. Et donc, je me permets de vous le rappeler, puisque mercredi, vous aviez dit de vous le rappeler dès le début des questions-réponses. Tfadal, chère.
Je vais l'aborder, inchallah ta'ala, juste après avoir répondu à la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Adi Wahda. Et deuxièmement, la personne qui est présente pour la question des djinns, est-ce que c'est un frère ou là une sœur? Tfadlal.
Alors, la personne qui a posé la question, Achim, mon PV est ouvert. La personne qui a posé la question sur les djinns, c'est une sœur. Par contre, la personne qui vous a envoyé le mail, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Donc, la question suivante. Assalamu alaikum, Abu Abdillah. Hayakum Allah. Nous souhaitons, bi'idhnillah, vous inviter. Je ne sais pas si c'est fait, Tounes. Acceptez-vous? Si oui, comment devrons-nous nous y prendre? Je ne sais pas si c'est fait tourner, cher, ou bien s'il a voulu dire autre chose. Wallah,
Non, mais il a voulu dire en Tunisie. Tunis, c'est la capitale de la Tunisie. Tu as compris? Ce frère qui, barakallahu fait pour son invitation, S'il est toujours là jusqu'à la fin du cours, s'il est toujours là jusqu'à la fin du cours, on se contacte après le cours. S'il est toujours là jusqu'à la fin du cours, on se contacte, Inch'Allah Ta'ala, après le cours. Si jamais j'oublie avant et je vais fermer et je ferme le salon, il faut me le rappeler. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, maintenant une seconde, Inch'Allah Ta'ala, pour la question de la fois passée. Question de la fois passée sur yani, yani sur le mort quand on le met dans la tombe, et est-ce que ce sont les djinns et les ins qui entendent, ou bien ce sont les djinns qui entendent? Et j'avais promis de répondre, Inch'Allah Ta'ala, je vais répondre. Et pour pouvoir répondre, Inch'Allah Ta'ala, à cette question, je demande, Inch'Allah Ta'ala, je demande, Inch'Allah Ta'ala, aux admins de ne rien écrire sur le salon le temps que je réponde. Pourquoi? Car en écrivant, vous écrivez des choses, donc il y a ce qu'on appelle, ça va monter. La question va monter en haut. Non. Donc il ne faut rien écrire le temps que je réponde, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, regardez, Inch'Allah Ta'ala, avec moi ce hadith. Regardez avec moi ce hadith. Le prophète, alayhi sallam, a dit, quand on mécréant, si on l'interroge sur son maître, sur sa religion, sur son prophète, il dira, ha ha, ha ha, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire des choses et j'en ai fait de même. Alors, on lui assènera un coup avec une barre de fer et il lancera un cri que tout être entendra, à l'exception des djinns et des hommes. Le hadith, il est dans Bukhari et les autres. Donc ce hadith authentique prouve que quand on va frapper le mort dans sa tombe avec une barre de fer, que il lancera un cri que tout être entendra. Sauf deux êtres ne vont pas entendre. Qui? Les djinns et les hommes. Donc ces deux-là ne vont pas entendre. Donc vous avez remarqué le premier hadith. Regardez maintenant le deuxième hadith, ce qu'il dit. Le deuxième hadith, est-ce qu'il s'est affiché? Il commence par lorsqu'il se termine par foudroyer. Il commence par lorsqu'il se termine par foudroyer. Alhamdoulillah. Hadith authentique. Chauffe le hadith qu'il dit. Lorsque la dépouille du défunt est décomposée sur le brancard, que les hommes l'ont chargé sur leurs épaules, si le défunt était juste, son âme va crier, faites-moi avancer. Donc, au contraire, l'âme dira, malheur à moi, où m'emmenez-vous? Ces paroles, quand elle va crier comme ça, malheur à moi, seront entendues par toutes les choses, sauf par l'homme. Et si l'homme les entendait, il tomberait foudroyé. Hadith authentique. Donc, le hadith ici, qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle plus de le mort qui est dans la tombe. Mais c'est avant la tombe, lorsqu'on met le mort sur le brancard. Et si c'est un mauvais, il a fait de mauvaises choses, il va crier, malheur à moi, où m'emmenez-vous? Son âme va crier. Il a dit, ces paroles seront entendues par toutes les choses, sauf par l'homme. Ça veut dire, les djinns ici vont l'entendre. Seulement l'homme ne va pas l'entendre. L'être humain n'entend pas, mais les djinns vont entendre. Donc vous êtes d'accord avec moi. Pour le premier hadith, si c'est dans la tombe, on va dire que tout va entendre. Tout va entendre. Le supplice de la tombe, il a dit, sauf les djinns et les êtres humains, si c'est dans la tombe. Quant à, si c'est sur le brancard, avant la tombe, non, ce sont seulement les djinns qui vont entendre. Ce sont seulement les djinns qui vont entendre. Maintenant, regardez le troisième hadith et vous allez comprendre. Troisième hadith, il commence par quand il se termine par l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Ici, c'est affiché, musulman, c'est affiché. Non, regardez le troisième hadith. Quant au mécréant, si on l'interroge sur son maître, c'est-à-dire dans la tombe, sur sa religion, son prophète, il va dire, ha ha ha, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire des choses et j'en ai fait de même. On va lui asséner un coup avec une barre de fer et il lancera un cri que tout être entendra à l'exception de l'homme. Vous avez remarqué ici, il a dit le de l'homme, alors qu'il fallait dire qui, quoi? À l'exception de l'homme et du djinn. Mais il a dit l'homme. Qui a dit ça? Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, dans son livre, dans son livre Riyad Salihin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, a fait ce qu'on appelle une confusion en joignant entre deux hadiths. Le premier qui part de l'atome, ce sont les trois premières phrases, quand on m'écrit, etc. Et il a confus avec l'autre hadith du brancard, où il est dit que, quand il va dire où m'emmenez-vous, que tout entendra, à l'exception de l'homme. Donc il a confus et il a mélangé entre deux hadiths. Et ce qui est étonnant, c'est que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans l'Aqida al-Wasitiya, n'a pas confus. Mieux encore, il a corrigé à Ibn Taymiyyah. Car si vous allez dire comment, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il confond. On va dire pourquoi il ne confond pas, rahimahullah. Pourquoi il ne confond pas? Il n'y a que le prophète Al-Sassim qui est infaillible. Pourquoi il ne confond pas? D'ailleurs, si lui ne confondait pas, pourquoi Cheikh l'Islam a confondu? Cheikh l'Islam, dans son livre, si vous allez lire le matn de l'Aqid al-Wasitiya, il a confondu, rahimahullah. Et il a écrit le troisième hadith que je viens de citer ici. Il a dit, il entendra à l'exception de l'homme. Alors qu'il fallait dire à l'exception de l'homme et le djinn. Non, mais Cheikh l'Islam, n'oubliez pas que Yani, il a écrit ce livret entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. Quand un homme est venu le voir de Waset, il lui a dit, on a des problèmes chez nous dans la Aqida en Irak. Il lui a dit, écris-nous quelque chose dans la Aqida. C'était après Salat al-Asr. Il est rentré dans la maison, il est sorti avant le Maghrib avec le livret l'Aqida al-Wasitiya. Donc il a écrit comme ça de sa tête. Donc il a fait, rahimahullah, une confusion ici. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est que j'ai... C'est que quand il a confus, j'ai dit Cheikh Ibn Uthaymeen a fait la même chose en citant le même hadith que lui, mais dans Riyad Salihin, pas dans l'Aqid al-Wasitiya. Dans l'Aqid al-Wasitiya, il lui a corrigé. Et moi, j'ai fait la même chose, j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen dans Riyad Salihin, alors que moi-même, j'avais aussi corrigé quand j'avais fait le cours dans l'Aqid al-Wasitiya. Je peux vous donner par exemple, regardez ici. Regardez ça par exemple. Regardez par exemple, si vous allez sur mon site, si vous avez une fois du temps, vous allez sur mon site, deuxième tome. Regardez l'Aqida al-Wasitiya. Deuxième tome, cours numéro 2. Non, la afwan. Deuxième tome. Deuxième tome, tome 2. Non, donc c'est la même chose. Cours numéro 22 à la 41e minute. J'ai parlé de ça. Et je l'ai ici devant moi. Attendez, si je trouve où c'est ça. Je trouve où c'est ça. C'est sur mon téléphone. Snatchouf, où est-ce que je peux trouver ça? Donc, Nam. Nam, je vois à peu près où c'est. Une seconde. Non. Dites-moi si vous m'entendez, Muslim. Regardez ce que je dis dans l'Aqid al-Wasitiya, tome 2. Tome 2, cours numéro 22, 41e minute, je crois que c'est en 2008, ou là en 2006. Allahu alam. Écoutez ce que je dis. Mais si par contre tu dis non, Y, pour moi c'est un menteur, c'est pas un homme de confiance. Dans ce cas, on va dire donc il nous a menti et c'est toi qui dis la vérité donc tu n'as pas dit. Vous avez compris? Tout ça pour vous dire que yani, on peut dire des choses et oublier et ensuite yani, c'est pas un fait exprès. On peut même jurer, je dis je jure par Allah que j'ai pas dit cette phrase alors qu'on l'a dite, subhanallah l'adhim. C'est arrivé même à Adam alayhi salam. Adam alayhi salam a donné 40 ans de sa vie à Daoud alayhi salam. Et quand c'est le moment de la mort, il a dit non, j'ai pas donné. Est-ce que Adam alayhi salam c'est un menteur, a'oudou billah? Le premier prophète. Pas le premier messager, premier prophète. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais qui nasiya. Fa nasiyat dhurriyatuhu wa jahada fa jahada dhurriyatuhu. Naam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Tfadhal inchallah ta'ala pour la prochaine question.
Vous Est-ce que c'est bon, Inch'Allah? Alhamdulillah. Ah, monsieur, vous m'entendez? Par rapport à ce que vous avez dit, cher, justement, j'ai entendu une fois qu'on m'avait dit que l'homme, on l'appelait Insan car il oublie. Est-ce que c'est une chose vraie ou une chose inventée? Fadal, cher.
Mousseline dit que certaines personnes disent que l'insan, ça vient du verbe nasiya, oubli. C'est pour ça qu'on l'appelle insan. Or, moi, je dis que c'est pas vrai. Insan ne vient pas de nasiya, oubli, mais il vient du verbe anasa. Anasa, ça veut dire il a vu. La'alli atikum minha biqabas. J'ai vu un feu. Je vais vous ramener, inshallah ta'ala, de là-bas, yani un peu pour vous réchauffer. Il a dit, j'ai vu un feu. Et l'autre, on l'appelle djinn.
Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah Ta'ala vous récompense de la meilleure des récompenses pour votre disponibilité et vous élève en degré. Cher, je suis désolé pour ma question un peu embarrassante, mais j'ai besoin de savoir, Inch'Allah. Voilà, cher, je devais avoir mes menstrues le jeudi et j'ai eu et je les ai eues, mais juste quelques traces. Puis comme je suis avec la prise de la pilule ou pas, Wallahu alam, je voudrais savoir si je dois reprendre mes actes d'adoration et rattraper les prières de vendredi et samedi, ou si je dois attendre une semaine. Aussi.
Il manquait un ou deux mots que j'ai pas entendu dans la question. Si c'est possible, barakallahu fik, de répéter.
Non, Michel, sinon comme on faisait sur le site, aussi bien les frères que les sœurs, de lui ouvrir le PV. Jazakumullah khairan. Tfadha, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Fi sawt. Non. Les menstrues. Quand elles existent, elles viennent. Quand elles viennent et elles existent, elles sont là avec le sang et la couleur et l'odeur. Ce sont des menstrues. Non. Même si ça dépasse, yani, si ça dépasse l'habitude. Des fois, d'habitude, la femme, par exemple, a 6 jours. Cette fois, c'est resté 8, 10, 12 jours. On dit toujours c'est monstrueux. C'est monstrueux et elle prie pas. Pourquoi? Il y a toujours le sang, il y a l'odeur, il y a la même chose. El Mohim, à condition que ça ne dépasse pas 15 jours. Si ça dépasse 15, le 16e jour, elle doit se laver et prier et doit compter ça comme quoi? Comme métroragie. Maintenant, autre chose. Maintenant, supposons qu'une femme ait l'habitude d'avoir les menstrues, par exemple, le 7e jour. Et maintenant, le 7e jour, il n'y a rien. Le 8e jour, il n'y a rien. Donc, tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas monstrueux. Elle ne va pas dire, puisque d'habitude, ça vient le 7e, donc à partir du 7e, je vais compter. Non. Elle attend. Ça s'est déréglé. Elle attend jusqu'à ce que ça vienne. Maintenant, a l'habitude, par exemple, d'avoir les menstrues le 7e jour de chaque mois, par exemple. Et maintenant, le 7e, ou bien le 6e, il y a quelques traces. Non, il y a quelques traces, ensuite il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, est-ce que ces traces qui sont venues suite à des contractions, etc., comme d'habitude lorsqu'on a les règles, ou pas? Car la femme, quand elle, pour avoir les menstrues, elle commence en principe par ou là avec certaines contractions. Contractions dans le ventre, ou je ne sais où, hein, qui sont les prémices. Ensuite, quelques tâches qui sont les prémices de quoi? Des menstrues, yani de leur arrivée. Si maintenant, il y a les contractions et il y a les tâches, ça a commencé, même s'il n'y a plus rien après, on doit compter ça comme menstrues. Très important. Très important. À partir du moment où il y a contraction et que les règles ont commencé, il y a déjà quelques tâches. Ensuite, même si ça s'arrête, on doit compter ça comme monstrueux jusqu'à ce que se termine la période, ou bien jusqu'à ce que on les attende qu'elles viennent vraiment fortes comme d'habitude et se terminent. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui se trompent. Quand elles ont les menstrues, elles ont par exemple 7 jours de menstrues. Maintenant, c'est le troisième jour, ensuite il n'y a plus rien. Elle dit, Masha'Allah, je me suis purifiée. Et elle commence à prier ou à jeûner alors que c'est faux. Elle sait que d'habitude, elle a 7 jours. Comment les menstrues qui restent 3 jours? C'est pas possible. Même si elle s'est purifiée, c'est sec, mais elle est dans les menstrues. Et elle ne prie pas, ne jeûne pas et ne laisse pas son mari l'approcher. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les menstrues même si elle n'a pas de sang. Pourquoi? Car elle a eu les contractions et le début des règles et elle est dans la période des règles. Et elle est dans la période des règles. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Si elle a eu des contractions, ensuite ça a commencé, non, les règles, ça a commencé, c'est que elle était dans la période de règles. Elle était dans la période de règles. C'est pour cela que je dis, de préférence, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il vaut mieux essayer de s'éloigner de ces pilules, que vraiment ne les laisser que pour le cas de besoin, etc. Et ne pas faire comme les kuffars qui vivent avec les pilules. La base chez les kuffars et chez la kafira, c'est de prendre la pilule. Et quand elle fait exception, elle n'en prend pas. Alors, chez la musulmane, c'est le contraire. Elle n'est jamais avec la pilule. Sauf quoi? Sauf besoin, sauf exception, elle prend la pilule. Donc je dis à cette sœur, si il y en est par prudence, si elle voudrait, elle refait les 2 jours, où elle a eu le doute qu'elle n'a pas prié. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlan.
Question suivante. Salam alaikum. Abu Abdullah, hayakumullah, wa bayakum. Je suis actuellement en Tunisie. Je connais une sœur que j'aime énormément, fillah. Cependant, elle a beaucoup de choubouhat. Elle étudie du minhaj salafi, mais elle écoute certains, entre guillemets, chouyour, takfiriyin, Allah al-musta'an. Comment dois-je m'y prendre avec elle? J'ai déjà essayé de lui parler un peu, mais bon, je ne sais pas trop de quelle manière je devrais le faire de manière à ne pas la faire fuir. Barakallahu fikoum de me conseiller. Hafizakumullah. Et c'est la question d'une sœur. Tfadal, cher.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Quand quelqu'un a déjà bu de la source d'un mauvais minhaj ou une mauvaise aqida, attention, il n'est pas facile à faire retourner vers le droit chemin. Il n'est pas facile. C'est pour cela que les savants font la différence entre le djahil, djahil basit, et le djahil, djahil murakkab. Ils disent le djahil, il y a deux sortes. Il y a le djahil simple et il y a le djahil complexe. Le djahil, l'ignorant simple, c'est celui qui ne sait pas. Tu lui dis combien c'est salat al-dhuhr, combien d'unités. Il te dit je sais pas. Tu lui dis c'est quel mois on jeûne. Quel mois on jeûne. Le un mois. Il te dit je sais pas. Celui-là, c'est un ignorant simple. Mais l'ignorant complexe, c'est celui-là le dangereux. Il connaît des choses qui sont fausses. Tu lui dis combien salat al-dhuhr on fait, il te dit on fait 5 unités. Tu lui dis quel est le mois que le musulman doit jeûner, le pilier de l'islam. Il te dit c'est Shawwal. Vous avez compris? Celui-là, on dit de lui, c'est un ignorant mais complexe. Il est difficile. Il fait deux fautes. Le premier, l'ignorant simple, il fait une faute. C'est quoi la faute? Il n'a pas de science. Le deuxième complexe, il fait deux fautes. La première, il n'a pas de science. Et la deuxième, il a une science fausse. Ce qu'il connaît, c'est faux. Et il croit quoi? Il croit qu'il connaît. Il croit qu'il connaît. La preuve, il te dit, salat Allah, c'est 5 unités. Donc pour lui, il connaît. Alors le premier, il ne connaît pas. Donc je reviens, je dis, quand quelqu'un a commencé à être influencé par les takfirs, par les tablir, par. Il faut aller doucement avec lui, car d'après lui, il sait. Et d'après lui, c'est lui qui est dans le vrai chemin. Et c'est les autres qui sont dans le faux. Dans le faux. Naam. Surtout que takfir, il entend de beaux versets. Des hadiths authentiques dans le Bukhari. Qui dit que ceci, cela, il faut tuer, il faut faire le djihad, il faut ceci, il faut cela. Alors qu'en fait, ce sont tous des hadiths et des versets qui ne sont pas dans leur vrai contexte. Dans leur vrai contexte. Donc je dis à cette sœur d'aller doucement avec cette sœur. D'aller doucement avec cette sœur. Et de préférence, de lui donner des livres pour qu'elle lise. De lui donner des livres de Al-Sunna ou Jama'a. Il y a comme ça des petits livrets de Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Othaymine, de Haydan, comme ça des petits livrets qui parlent sur le djihad, sur ceci, sur cela, et de dire à la personne, de dire que voilà, yani, par exemple, j'ai remarqué que tu suivais tel et tel Cheikh, par exemple, et de dire que moi aussi, Agda, tu fais semblant que toi aussi tu savais pas, tu dis que moi aussi j'étais comme toi et je croyais que yani, ceci, cela, mais. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des mises en garde contre cela par des grands savants et qui disent qu'ils ont des fautes, etc. Mais nous, étant des gens de la masse, on ne peut pas savoir. Non, nous, on est des gens de la masse. On ne peut pas savoir qui dit faux, qui dit vrai. Mais je voudrais juste avertir qu'il y a des mises en garde de grands savants contre ces gens-là. Ils disent que voilà, ils sont dans un minhaj dévié, ceci, cela. Si tu veux, je te ramène un livre. Doucement, comme ça. Doucement, doucement, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va la guider. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne la guide pas, et qu'elle s'énerve ou qu'elle, yani, elle ne fait du mal qu'à elle-même. Elle ne fait du mal qu'à elle-même. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfadhal.
Non, donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakum Allah. Je vous explique ma situation, Inch'Allah. Donc, c'est la question d'une sœur. Ma mère a adopté un petit garçon en 1994. Cette adoption a été faite en Algérie. Elle n'était pas légale. C'est une maman qui était à la rue et qui a donné son bébé à ma mère, car elle ne pouvait pas s'occuper de lui, donc ma maman s'est débrouillée pour le ramener en France illégalement à l'âge de 3 mois. Il porte le même nom que nous, donc pour moi, à mes yeux, c'est mon frère, car on a grandi ensemble sans séparation. Nous avons toujours été très très proches. Je me suis toujours occupé de lui, que ce soit financièrement ou pour son éducation. Il a aujourd'hui 19 ans, donc il est pubère, et moi j'en ai 30. Ma question. Et vu notre situation, et vu l'amour fraternel qu'il y a entre nous depuis toujours, peut-on toujours garder cette relation de frère et sœur, sachant qu'il n'y a pas de lien de sang? Peut-il toujours me visiter à la maison quand je suis seul? Dois-je me voiler devant lui? Cette situation nous rend tristes tous les deux, car depuis que je me suis voilé et marié, mais je ne vois plus mon frère, car religieusement, je ne sais pas si j'ai le droit. Mon frère n'a que moi ici. Et cette séparation lui fait beaucoup de mal, car ma mère, depuis plusieurs années, ne s'occupe plus de lui, et la justice française m'a donné la garde totale de mon frère lorsqu'il avait 12 ans. Donc je suis sa seule famille. Pouvez-vous me dire si dans notre situation, on peut toujours continuer à se voir dans les mêmes conditions, c'est-à-dire seul et sans voile, comme un vrai frère et comme des vrais frères et sœurs, nous sommes-nous dans le péché? Et quels sont les adillahs à ce sujet? Et y a-t-il divergence auprès des savants? Allah vous récompense grandement pour le bien que vous nous apportez. Barakallahu fikoum. Tfadel, cher.
Alaykoum salam, rahmatoullah. Il y a une chose. Naam. Comment se fait-il que ce bébé, yani, on lui a donné à l'âge de 3 mois et que pendant toutes ces années-là, il n'a pas été allaité. Il n'a pas été allaité par sa mère, la mère de la sœur qui pose la question, ou bien par sa grand-mère, ou bien par sa tante, c'est-à-dire la sœur de la mère de celle qui pose la question, ou bien la sœur de celle qui pose la question. Non. Il faut lui demander, inshallah ta'ala, cette chose. C'est très important. Tafadhal.
Ah, Michel, j'avais anticipé, je savais que vous alliez demander. Et elle me dit que non, sa mère ne l'a pas allaité. Trois d'achir.
Vous voyez les gens maintenant, quand on naît, on ne connaît pas bien l'islam, comment qu'on peut faire une faute grave? Quelle est la faute grave? La faute grave, c'est de ramener quelqu'un qui a 3 mois et on ne l'allaite pas. C'est ça la faute grave. Je veux ramener quelqu'un qui a 3 mois et je sais qu'il va vivre chez moi, il va grandir. Donc, pour sortir des problèmes, je n'ai qu'à quoi? Qu'à l'allaiter pendant 5 fois, c'est tout. 5 fois, yani, cinq fois, ça peut se faire en une journée. En une journée, je peux l'allaiter 5 fois. Et, alhamdoulilah, les problèmes sont terminés. Ou bien je la donne à ma mère, je le donne à ma mère, ou bien à ma tante, ou bien, une moyen pour qu'il devienne un mahram pour la femme. Donc, jeudi, je reviens jeudi. Les savants, la plupart des savants, la plupart, sauf 3 ou 4, c'est tout. Entre autres, Abu Hanifa, Ishaq ibn Rahawi, Ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim, ces 4 grands. À part ces 4 grands, tous les autres ont dit que il ne devient pas un mahram, yani, en le gardant chez nous, si on ne l'allaite pas. Non, il ne devient pas. Il s'est interdit qu'il prenne le nom de yani, cette famille. Comme maintenant, elle dit qu'il a pris le nom. À part chez ces 4 savants que je viens de citer maintenant. Ces 4 ont dit que si vraiment il n'a pas de famille et que personne ne l'a demandé et qu'il est dans la rue, etc., ils ont dit que on pouvait lui donner le nom de la famille. Ces 4 ceux-là. Mais je ne sais pas s'ils ont dit que il devient un mahram. Ils ont dit on peut lui donner le nom. Mais vraiment, yani, dans des exceptions vraiment restreintes, des cas vraiment restreints, pour le nom. Mais je ne sais pas maintenant, j'ai pas dans la tête, je me rappelle pas s'ils ont dit il devient un mahram ou pas. Sinon, tous les autres savants ont dit que yani, il ne peut pas devenir mahram. Pourquoi? Car c'est un étranger. Il vient d'un autre homme, d'une autre femme, et ensuite en lui donnant le nom, on va faire des problèmes. On va faire des problèmes en lui donnant le nom. Ça, il peut demain se marier avec sa sœur. Pourquoi? Car il n'a pas le nom de sa sœur s'il la rencontre. On lui a donné notre nom. Donc, il va rencontrer sa sœur, il va l'aimer, il va se marier avec elle, sa vraie sœur. Quand il va voir le vrai nom de sa sœur, il va trouver que, alhamdoulilah, elle n'a pas le même nom que lui. Car nous, on lui a changé son nom. C'est pour ça qu'ils disent que c'est grave de faire une chose pareille. Donc je dis, moi, je ne peux pas, comme ça, facilement, laisser yani, l'avis de la plupart des savants pour choisir l'avis de 2 ou 3 savants qui ont dit ça. Et qui, malgré cela, je dis, je ne sais pas s'ils ont dit il devient mahram, mais ils ont dit yani, seulement pour la permission du nom. C'est pour cela que je conseille à cette sœur, pour sortir des problèmes, l'âme, qu'elle prenne avec yani, l'ihtiyat. Qu'elle prenne avec yani, comment on dit ça, l'ihtiyat en français, c'est-à-dire la prudence. Pour plus de prudence, l'âme, qu'elle fasse de sorte que c'est un étranger. Ensuite, quand c'est un étranger, c'est pas grave. Yani, qu'il vienne à la maison en présence du mari. Qu'il vienne à la maison en présence du mari. Naam. Parce que, yani, il y a dans le cœur cette chose-là que c'est toujours un frère. Mais, yani, qu'elle mette comme ça un voile. C'est pas obligé qu'elle mette le djilbab. Un voile à la maison, quelque chose sur la tête et qu'il voit rien de son corps. Quand elle est, yani, quand ils sont ensemble à la maison et qu'il y ait une tierce personne pour qu'il reste pas, inchallah ta'ala, dans la khulwa. Dans la khulwa. Le temps qu'on cherche, on cherche encore davantage. Est-ce que les savants, les 4 là, qui ont dit pour le nom, est-ce qu'ils disent aussi qu'il est mahram? Ils disent que son mari ne s'entend pas avec lui. Elle dit que son mari ne s'entend pas avec, donc ils ne peuvent pas se voir. استغفر الله واتوب اليه. قدر الله ما شاء فعل. Moi, je vais encore chercher dans cette chose. نعم, je vais encore chercher dans cette chose, inshallah ta'ala. C'est-à-dire que si les quatre qui ont dit pour le nom que c'était permis, je vais voir s'ils ont dit aussi que en lui donnant le nom, il devient yani, de la famille ou pas. Inshallah ta'ala, le temps que yani, je fasse des recherches, donc la personne, inshallah ta'ala, patiente. Et que c'est comme ça. Des fois, quand on commence à appliquer, il y a des choses qui surviennent et il y a des choses. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Ou plutôt, on doit choisir entre maintenant l'islam et entre yani, les problèmes familiaux, etc. Et on doit choisir l'islam, comme vous savez. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider pour qu'on fasse yani, des recherches. Tfadlal.
Amin. Et je ne sais pas, cher, si ça peut influencer la réponse, mais elle a indiqué à un moment dans sa question que la tutelle lui avait été remise, même si ça peut jouer sur le cas particulier. Donc, question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que lorsque l'on offre un Coran, on obtient des hasanat à chaque fois que la personne le lit. Barakallahu fikoum. Tfadashir.
Qu'est-ce que tu as dit pour la tutelle? J'ai pas compris, Muslim. Qu'est-ce que tu as dit pour la tutelle? Et si c'est possible, répète la question. Jazakallahu khairan. Tfadal.
Naam, cher. Dans la question posée concernant la personne qui avait été adoptée, elle a indiqué que. Je reviens sur le passage. Je ne sais pas si j'ai droit, mon frère n'a que moi ici, et cette séparation lui fait beaucoup de mal, car ma mère, depuis plusieurs années, ne s'occupe plus de lui, et la justice française m'a donné la garde totale de mon frère lorsqu'il avait 12 ans. Donc je suis sa seule famille. Donc entre-temps, en fait, c'est elle qui était à la charge de son frère. Son frère était à la charge de, entre guillemets, son frère qui était à sa charge. Donc je reviens sur la question. Salam alaikum. Lorsque l'on offre un Coran, obtient-on des hasanat à chaque fois que la personne le lit? Barakallahu fikoum. Fadal cher.
Pour la tutelle, j'ai pas compris yani, comment que quelqu'un qui a 19 ans on a la tutelle sur lui. Ça j'ai pas compris. Pour le Coran, quand on offre 12 ans. Ah, il a 12 ans, je croyais 19 ans. Elle a dit qu'il avait 12 ans. Lorsqu'il avait 12 ans. Malish. Maintenant, il a 19 ans, si je ne me trompe pas. El Mohim. Ça. Pour le Coran, quand on offre à quelqu'un un Coran. On offre à quelqu'un un Coran. À chaque fois qu'il lit, moi, qui lui ai offert le Coran, je prends avec lui les hasanat. À chaque fois que quelqu'un lit du Coran que j'ai offert, je prends, avec celui qui a lit, je prends des hasanat sans lui en retrancher de sa part. Lui, celui qui lit. Quand il lit, il a, pour chaque harf, pour chaque lettre, il a 10 récompenses au moins. Mais moi, j'ai aussi des récompenses. Salam alaikum wa rahmatullah, si vous m'entendez. Alhamdoulilah. Est-ce que vous avez entendu la réponse sur le Coran? La réponse sur la question du Coran, est-ce que vous l'avez entendu? J'étais déconnecté. Mousseline, est-ce que vous l'avez entendu? Naam, alhamdoulilah. Pas entièrement. Je résume très vite. Quand quelqu'un offre un Coran à quelqu'un, naam, à chaque fois qu'on lit de ce Coran, à chaque fois qu'une personne lise de ce Coran, j'ai avec elle des hasanat sans lui retirer de ses hasanat. J'ai avec elle des hasanat sans que je retire des hasanat de la personne qui lit. Bi'idhnillahi ta'ala. Fawzi, est-ce que tu avais quelque chose à demander à propos d'une mosquée? Est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Tfadl Muslim pour une autre question.
Une question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout. Je vous explique ma situation. Il y a 3 mois, j'ai accepté de me marier. Nous nous sommes mariés selon la Sunna et le Coran, mais nous habitons encore chez nos parents pour le moment. Au début de notre relation, tout se passait bien. On apprenait à se connaître et je commençais à m'attacher à lui. Ensuite, nous sommes partis en vacances pour 3 semaines. Et comme nous étions tout le temps ensemble, j'ai commencé à voir son vrai comportement et la vie en couple. Et cela ne me convient pas du tout. Je ne le supporte plus. Je n'arrive pas à l'aimer. Et ma vie devient pénible car je le fais souffrir en étant distante avec lui. Je ne veux pas qu'il me touche ni qu'il m'approche. Je ne veux même pas le voir. Le problème est que je suis enceinte et cela empire. Je ne supporte plus son odeur ni sa présence à un point que je ne veux plus rien de lui. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire car je n'arrive pas à faire des efforts pour l'aimer et à envisager ma vie avec lui. J'ai peur de désobéir à Allah en ayant un mauvais comportement envers lui. Donc, min fadlikoum cher, si vous pouviez m'aider à trouver une solution qui serait dans les règles, où je ne commettrai pas de péché. Jazakumullah khairan. Ça me fait penser à ce que vous aviez dit avec la cabane. Non,
Ça se transforme comme ça, yani de l'amour vers la haine, comme ça du jour au lendemain. Alors qu'elle dit qu'elle commençait à s'habituer à lui, à ceci, à cela. Ensuite, du jour au lendemain, elle le déteste, elle ne peut plus le sentir, elle ne peut plus ceci, plus cela. Nous n'avons pas entendu le début. De quel début tu parles, musulman? Nous n'avons pas entendu le début. De quel début tu parles? Je viens de commencer là, je viens de commencer ici la réponse, je viens de la commencer maintenant. Je viens de la commencer maintenant. J'ai dit que c'est étonnant que une personne yani, qui commence à aimer quelqu'un, etc., normalement, ça va se fortifier. C'est pas ça se renverse comme ça devient de la haine du jour au lendemain. C'est pour ça que premièrement, j'ai deux choses à dire, ça c'est la première. Premièrement, je conseille à cette sœur de faire ruqya. Car il est possible qu'on lui ait mis ou fait le sihr de la haine. Vous savez, le sihr, il y a beaucoup de sortes. Il y a entre autres le sihr pour détester la personne. Et détester veut dire aussi pour se séparer d'elle. Nous ferriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Au point où, quand on va voir la personne, on va la voir en noir, comme un shaitan, a'oudhou billah. On n'a plus envie d'être devant elle, ni de la voir, ni. Donc, faut faire ruqya pour voir si la personne n'a pas ce sihr, le sihr de la haine. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je voudrais dire en général, de par l'expérience que j'ai dans l'âge, puisque je suis âgé et marié, donc je sais à peu près comment ça se passe. Je voudrais dire à tous les couples, et demander ça, ce que je vous dis, demander à tous ceux qui sont mariés depuis des années, ils vont vous dire c'est vrai. C'est quoi? Disons les 2 premières années, ou les 3 premières années, il ne faut pas donner d'importance, beaucoup d'importance, aux disputes qu'il y a dans le couple, etc. Parce que on vient juste se marier, une année, deux, trois, c'est rien. On vient juste d'apprendre à se connaître. Et yani, on n'est pas attaché l'un à l'autre vraiment, parce qu'on est nouveau. Donc on se dispute pour rien, on s'énerve pour rien, on veut divorcer pour rien, on veut donner un coup de pied pour rien, et comme ça, et comme ça. C'est pour cela que c'est après la première année, après la deuxième, après la troisième, 4, 5, 6, 7, ensuite on commence à quoi? On commence, yani, disons l'arbre. Les racines de l'arbre familial commencent à quoi? À s'enfoncer dans la terre. Ensuite, ça devient difficile Yani de se séparer. Peut-être on va même plus parler de séparation et comme ça. Même s'il y a des fautes, il y a ceci, il y a cela. Donc je veux dire, pour les couples qui se marient et qui dès le premier mois, ça marche pas et ceci et cela, il faut patienter. Il faut voir après. Ça c'est le début, c'est normal, c'est nouveau, c'est. Enfin, tu découvres des choses à laquelle tu t'attendais pas, etc., etc. Ça c'est la deuxième chose. Donc je dis à cette sœur de faire la ruqya et la deuxième étape de patienter pour voir. Au moins, de patienter jusqu'à ce que yani, elle ait l'enfant, parce qu'elle est enceinte. Et troisièmement, enfin, pour terminer, la dernière solution, et qui n'est pas bien sûr la meilleure, mais qui est la dernière, c'est que quand quelqu'un des deux conjoints, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, mais surtout la femme, ne peut plus supporter de vivre avec son mari et le déteste. Alors, commencer à le détester. Car quand on dit détester, haïr, ça veut dire tout simplement que elle ne supportera plus qu'il l'approche. Et si elle ne supporte plus qu'il l'approche, ça veut dire, elle va quoi? Elle va pas lui donner ses droits que Allah Ta'ala lui a donné. Et si elle lui donne pas ses droits, donc lui, pourquoi il s'est marié avec elle? Ensuite, lui, elle fait des grands péchés. Dans cette situation vraiment délicate, les savants ont dit, ça lui est permis, comme dernière solution, de demander le khula. Car c'est refouler un grand mal en faisant un petit. Car il n'y a pas d'autre solution. Si je reste avec lui, je n'aime pas. Non seulement je ne l'aime pas, mais je le déteste. Si je le déteste, je n'aime pas qu'il m'approche. S'il ne m'approche pas, je lui donne pas ses droits. Si je lui donne pas ses droits, je fais les grands péchés. Si je meurs comme ça, je ne vais pas rentrer au paradis. Donc, j'ai tout essayé, j'ai pas pu. Dans ce cas, dernière, ultime solution, ils ont dit c'est permis qu'elles fassent le khula. Ils vont pas rester comme ça toute leur vie. Donc, voilà, inshallah ta'ala, les étapes par lesquelles doit passer cette sœur, inshallah ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et faire renverser les choses, car c'est lui qui détient les cœurs entre ses deux mains et renverse comme il veut, bi'idhnillah ta'ala. Pose-nous, musulmans, pose-nous maintenant la dernière question, inshallah ta'ala, tfadlal.
Donc, dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Une sœur souffre de beaucoup de waswas et d'angoisse depuis des années. Elle pense que cela provient d'un sihr. Elle en souffre énormément. Un jour, elle a fait une dua pour que les personnes qui lui ont fait ça souffrent comme elle souffre. Quelque temps plus tard, ces personnes ont perdu leur mère. Depuis, cette sœur a énormément de remords. Elle pense que tout est de sa faute. Comme elle a entendu que seuls les duas changent le destin, pouvez-vous la rassurer sur ce fait? Je précise qu'elle se trouve constamment une. Je précise qu'elle se trouve constamment une part de responsabilité dans ce qui se passe autour d'elle. Ah, Barakallahu fikoum, quand vous posez vos questions, Inch'Allah, relisez-vous. Je précise qu'elle se trouve. Elle se trouve constamment responsable dans ce qui se passe autour d'elle. Pouvez-vous la conseiller à ce sujet, Barakallahu fikoum? Fada cher. Et cher, je voulais vous demander, Inch'Allah, est-ce que ça vous dérange si durant la semaine j'ouvre votre salon, bien sûr, pas pour diffuser, car j'ai un problème sur votre salon. J'ai dû changer de PC, car sur un PC, je n'ai pas de son. Alors que j'ai du son dans tous les autres salons. Sauf le vôtre. Donc, Inch'Allah, je voulais tester et faire quelques tests. Donc, si vous voyez que j'ai ouvert votre salon, ne vous inquiétez pas. Et est-ce que vous me l'accordez, Barakallahu fikoum? Tfadal, cher.
Y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala, pour le salon. Quand tu testes, tu écris dans la bannière que c'est juste pour quelques tests. Ensuite, quand tu termines les tests, tu prends le micro, tu dis que vous m'excusez, mais c'était juste pour un test, je vais fermer, Inch'Allah ta'ala, le salon. El-Mouhim. Qu'est-ce que tu as compris, toi, Fika Barakallah? Qu'est-ce que tu as compris de la sœur? Elle avait des remords, elle voulait être apaisée, etc. Dans quoi? Est-ce que tu peux me répondre? Dans quoi? Est-ce que c'est dans le fait d'avoir fait des doigts contre les personnes ou quoi? Tfadlak.
En fait, elle pense que le fait d'avoir fait des doigts concernant les personnes, ça a entraîné la mort de leur mère. Elle pense que c'est sa doua qui est responsable de la mort de leur mère. Wallahu alam. Et je demande à la sœur de confirmer au frère Fawzi si c'est bien cela. Tfadashir. Tfadashir.
En islam, c'est permis, alhamdoulillah, de faire des doigts contre une personne qui m'a fait du mal. Alhamdoulillah. L'islam te soigne. Comment on dit te soigne? Il sait que tu es malade dans ton cœur. Malade comment? Quand une personne, on lui a fait du tort, elle n'est pas malade, si. Elles sont, subhanallah, elles se sont, yani, vraiment nerveuses. Vraiment, il y a le sang qui bouillir, le sang qui bout dans ses veines. Elle voudrait éclater, elle voudrait. Alhamdoulilah. Tu n'as pas de solution. Allah Ta'ala t'a donné la solution. T'as dit, fais des doigts. Quand tu fais des doigts, tu sens, yani, comme une rahma qui descend dans ton cœur. Quelle est la preuve que tu peux faire des doigts? Le verset. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man dhulim. Allah n'aime pas les mauvaises choses qu'on dit par la bouche, à peu près, hein, pour vous compreniez, c'est tout, c'est pas la traduction intégrale. Allah n'aime pas ce que vous dites comme chose mauvaise. Il parle là des doigts, c'est-à-dire faire des doigts contre les gens. Il a dit illa man dhulim, sauf à qui on a fait du tort. Ça veut dire que la personne à qui on a fait du tort, Allah Ta'ala lui a fait des doigts, premièrement. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait-il pas des doigts dans la prière en faisant le qunut? Et il disait Allahumma, ya Allah, alayka bi fulan wa fulan. Et il citait même les noms. Ya Allah, je vous demande, yani, de châtier X et Y. Et il a commencé à citer des noms. Sept ou huit noms dans la salat. Subhanallah. Et beaucoup de salaf, le Mughira ibn Shu'ba. Attendez, c'est le Mughira ibn Shu'ba ou Sa'd ibn Abi Waqqas? Non, Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand on l'a accusé, on lui a dit que tu fais pas la prière comme il se faut et yani, tu es injuste quand tu donnes, car il était émir en Irak. Et tu donnes pas, tu distribues pas yani, partiellement, mais tu donnes à tes amis, etc. Et tu n'ordonnes pas d'aller pour faire la guerre sainte, etc. Il a dit comme ça, devant qui? Devant les gens, dans une mosquée. Dans une mosquée, il s'est levé et il a dit, voilà, le Mourera, il fait pas ceci, Saad, ne fait pas ceci, il fait ceci, il fait cela. Trois choses. Et tout le monde est en train d'écouter. Et c'était Omar Ibn Khattab qui avait demandé. Il a demandé aux gens, qu'est-ce que vous pensez de Mourera? De Saad Afoun, qui ont entendu des choses sur lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui témoigne? Et cette personne s'est levée à témoigner. Oui, il ne fait pas bien la prière, il la fait vite, et quand il donne pas équitablement, et il n'envoie pas au djihad. Qu'a fait Saad? Il a dit maintenant c'est à mon tour de parler. Il a dit Ya Allah, Ya Allah, si cette personne qui vient de dire ça sur moi a menti, alors, je demande trois choses. Faites rallonger sa vie. Regardez les trois doigts. Faites de lui, yani faites-le, noyez-le dans la pauvreté. Et donnez-lui une fitna ou bien la fitna des femmes ou bien des femmes de joie. Quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il a fait des doigts contre lui. Très connu le hadith de Saad. Et Allah Ta'ala lui a exaucé ses doigts. Quelqu'un a dit, quelques temps plus tard, ou bien des années plus tard, j'ai vu la personne contre laquelle Saad avait fait des doigts et qui a menti sur lui. J'ai vu cette personne assise dans la rue, âgée, 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 vieille, 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 au point où ses sourcils, ce qu'on a, les paupières, il a dit ses paupières tombées, tombées au-dessous de ses yeux. Tellement la personne, Allah Ta'ala lui a rallongé dans sa vie que ses paupières lui ont craché les yeux. La première. Je l'ai vu pauvre, au point où assis dans la rue, il tendait sa main aux gens. Subhanallah l'adib. Et troisièmement, j'ai vu une fille passer devant lui, une femme, nam, et lui a demandé de faire le haram. Subhanallah l'adib. Allahu Akbar. Subhanallah l'adib. Trois doigts et ils ont été exaucés. Al-Muhim, je dis, donc c'est permis de faire les doigts contre quelqu'un qui quoi? Qui m'a fait du mal. Mais ce qui n'est pas permis, c'est quoi? C'est de dépasser les limites. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, les takfiriyens, les ceci, cela, quand ils font des doigts dans le ramadan, quand ils arrivent au salat, doigts al-qunut, ils commencent à faire des doigts, par exemple, contre les kuffars. Contre les kuffars, ils disent, globalement, tous les kuffars, Ya Allah, exterminez-les, Ya Allah, faites ceci, Ya Allah, faites cela. Les savants ont dit, c'est pas permis. Pourquoi? C'est pas tous les kuffars qui t'ont fait du mal. Est-ce que tous les kuffars t'ont fait du mal? Il y a des kuffars qui sont tes voisins, t'ont jamais fait de mal. Peut-être qu'ils t'ont fait du bien, tu étais dans le besoin, ils t'ont aidé. Donc c'est pas tous les kuffars. Pourquoi tu fais des doigts contre mon voisin? Il n'a rien fait. C'est un kafir, mais il n'a rien fait. Pourquoi tu fais des doigts contre lui? Tu englobes tout le monde dans tes doigts. Vous avez compris? Allahumma ya Allah. C'est pour ça que Nuh alayhi salam, une fois il s'est énervé, il a fait des doigts contre tous les kuffars. Et Allah Ta'ala lui a blâmé. Il lui a dit, il ne faut pas faire des doigts contre tous les kuffars. Quand il a dit, La tada' minhum fil ardi diyaran, ou quelque chose comme ça, dans sourate Nuh. Al-Muhim. Elle a peur que la mère soit morte par sa faute à cause des doigts. Non, sa mère n'est pas morte par sa faute à cause des doigts. Sa mère est morte parce que le moment de sa mort était venu. Le moment de sa mort était venu. Si maintenant Allah Ta'ala a fait de toi une cause pour qu'elle meure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une cause qui suit le destin. Car tout destin a une cause. Ça vient pas comme ça. Non, tout destin a une cause. Tu glisses, tu tombes, tu meurs. Glisser et tomber, ça rentre aussi dans les causes du destin. Non. Si toi, yani, quelqu'un t'a fait du mal et tu as fait des doigts comme ça en général, Ya Allah, qu'aide, donnez-moi mon haq contre cette personne qui m'a fait du mal. Ya Allah, faites-lui ce qu'il m'a fait ou faites-lui comme il m'a fait. Non, tu n'as rien fait de mal. Non. Tu n'as pas demandé qu'on lui fasse plus qu'il t'a fait. Non. Donc toi, Inch'Allah Ta'ala, tu dois être apaisé que yani, c'est son destin. Et que personne ne meurt que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décrète que cette personne doit mourir. Naam. Maintenant, maximum, si tu as dépassé les limites dans les doigts, maximum, naam, tu as fait une faute. En faisant une faute, on peut quoi? On peut se rattraper en demandant à Allah Ta'ala le pardon et en faisant la tauba. Tu as compris, ma soeur? Si toi tu as dépassé les limites et tu as fait des doigts contre sa mère, et faire des doigts contre sa mère, c'est pas permis. Il faut faire des doigts contre la personne, pas contre sa mère. Tu as fait des doigts contre sa mère et sa mère est morte. Maximum, tu dis Allah, je me suis trompé. Dans Allah, ma chafal. Et tu fais des doigts et tu fais le repentir. Et tant que la personne n'est pas morte, Allah Ta'ala lui pardonne si elle est sincère dans le repentir, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal, muslim.
Non, cher, deux dernières choses, Inch'Allah. Concernant la sœur qui a posé la question vis-à-vis de son mari, et qu'elle disait qu'elle ne pouvait plus le voir, qu'elle ne l'aimait plus, etc. Il y a deux frères qui m'ont fait la réflexion que ça pouvait avoir un lien vis-à-vis de la grossesse, c'est-à-dire les hormones, etc. La sœur précise qu'elle pense que c'était avant, qu'elle ne l'aimait plus. Mais elle précise que ça s'est empiré avec la grossesse et surtout après avoir consommé le mariage. Surtout après l'avoir consommé. Et deuxième chose, chère, concernant la sœur qui a posé la question avec le frère adopté, est-ce que pour être frère de lait, il faut avoir tété en même temps? Ou alors on peut avoir tété la femme à la mère à deux moments différents? C'est une précision qu'un frère a demandé. Trois d'achat.
لو سمحت بارك الله فيك، سي بوسيبل دو غودير لي كيسيون، تفضل.
Naam, cher. Pour la première question, donc la sœur qui a posé la question vis-à-vis de son mari, qu'elle ne pouvait plus le voir. Donc deux frères sont venus me voir en PV en me disant que ça pouvait avoir un lien vis-à-vis des hormones, par rapport au fait qu'elle était enceinte. Et la sœur précise qu'elle pense, mais elle n'est pas sûre, elle pense que c'était déjà avant qu'elle ne l'aimait plus, mais elle confirme que ça s'est empiré suite à la grossesse. Et elle dit surtout après avoir consommé le mariage. Donc, Allahu a'lam si votre réponse changera, cher, par rapport à ce que vous avez dit. Et concernant la deuxième question, c'est vis-à-vis du frère qui a été adopté, la sœur qui a posé la question. Un frère est venu me demander s'il fallait téter la mère en même temps pour être frère et sœur de lait, ou est-ce qu'on peut avoir tété donc la mère à deux moments différents, c'est-à-dire des années qui séparent, ou bien il faut que ce soit en même temps. Tfadashir.
Le temps que je réponde à la deuxième question, dis-moi toi, inshallah ta'ala, qu'est-ce que tu as compris de la première question de la femme, de celle qui était enceinte, qu'est-ce que tu as compris de cette question? Je dis par rapport à l'allaitement, par rapport à l'allaitement, pour qu'un bébé devienne frère ou sœur, il faudrait qu'il allaite pendant les 2 premières années. S'il allait pendant, par exemple, après les 2 premières années, ça ne compte pas. Ça ne rend pas le bébé de la famille. Pour qu'il devienne de la famille, il faudrait qu'il allait seulement pendant les 2 premières années. Et qu'il allait 5 fois. Et 5 fois, ce n'est pas obligé que ça soit consécutif. Il est possible que les 5 fois, ça se passe en un jour, comme il est possible que les 5 fois, ça se passe en 2 années. Aujourd'hui, là, il a allaité une fois. La deuxième fois, il va allaiter dans 3 mois. La troisième fois, dans 6 mois. Et ensuite, je ne vais pas le revoir jusqu'à dans 1 année et demie. Il va allaiter une quatrième fois. Et comme ça, quand il reste 2 mois pour 2 années, il va allaiter la cinquième fois. Dans ce cas, il est devenu mon frère. Tfadla.
Non, monsieur. Donc, concernant la première question, vis-à-vis de celle qui n'a plus de sentiments envers son mari, en fait, les frères qui sont venus me voir par rapport à la grossesse m'ont dit que c'était peut-être lié aux hormones, c'est-à-dire un but scientifique, une raison scientifique. A priori, donc, la femme, quand elle est enceinte, elle peut avoir donc du dégoût ou avoir, je sais pas, peut-être, elle repousse son mari, Allahu a'lam. Et donc il demande s'il peut pas y avoir un lien là-dessus. Et donc la sœur précise que déjà elle pense, donc elle n'est pas sûre, elle pense que elle ne l'aimait plus déjà avant d'être enceinte, mais elle confirme dans tous les cas que ça s'est empiré avec la grossesse. Et elle dit surtout que ça a débuté après avoir consommé le mariage. Donc est-ce que votre réponse change ou est-ce que c'est la même, chère? Tfadda.
Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, n'oublie pas que pour ton micro aussi, toi aussi, il faut essayer de voir quelque chose, de faire quelque chose pour le prochain cours. Car comme tu vois aujourd'hui, on entend, mais c'est pas comme on entendait d'habitude. D'habitude, on entendait très net, Masha'Allah. Quand une femme est enceinte, surtout le premier, mais c'est pas une obligation. Ça peut être le deuxième, le troisième. Là, elle devient vraiment, yani, elle peut devenir vraiment, yani, vraiment, vraiment, pas la personne qu'on connaissait. Il faudrait que tous les hommes mariés et nouveaux mariés qui ne sont pas encore mariés sachent cette chose. Là, quand demain ta femme va être enceinte, surtout peut-être pour le premier bébé, ou même pour d'autres bébés, là. Ça arrive des fois, pas tout le temps, hein. Ça arrive des fois que yani, vraiment elle ait des comportements vraiment bizarres. Et que même yani, elle change complètement. Et qu'elle tombe malade. Et que elle frise la folie des fois. Des fois, je... Et combien, on ne peut pas les compter, combien les femmes qui, lors de l'accouchement, ont perdu la raison. Ils sont devenus des folles. Nam. Ils sont devenus malades avec de grands ouest, de grands. Nam. C'est pour cela que la personne, Nam, devrait vraiment faire des doigts pour que yani, elle ait une grossesse normale et un accouchement normal. La première des choses dont la femme et l'homme doivent être contents quand la femme accouche, c'est l'hamdoulah d'avoir accouché yani, dans une situation normale. Et l'hamdoulah, ma femme est toujours normale et yani, yani, naturelle. Parce que des fois, quand la femme accouche, ça lui arrive des problèmes, elle va perdre la raison des fois à vie, va devenir presque folle. Et des fois, ça lui reste 6 mois, 1 année ou là pour qu'elle commence à revenir à l'état normal. Pour dire que yani, la grossesse et l'accouchement, ce n'est pas une chose facile, bi'idhnillah ta'ala. Il faut faire beaucoup de doigts, bi'idhnillah ta'ala. Donc je dis à cette personne, elle dit que même avant l'accouchement, même avant la grossesse, qu'elle était comme ça, na'am, j'ai compris ce qu'elle a dit, et qu'elle fasse bi'idhnillah ce que je lui ai dit. Qu'elle fasse la ruqya et qu'elle. Elle fasse les étapes que je lui ai conseillées, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, même si je sais que la grossesse, ça joue un rôle et que ça fait empirer les choses. Ça fait empirer les choses dans beaucoup de cas, bi'idhnillah ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, mercredi. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Où est-ce qu'il est le frère qui m'a parlé tout à l'heure? Amin ya Rabbil Alamin. Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle le frère?